Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Comment des êtres dotés de capacités technologiques, intellectuelles, économiques sans précédent peuvent-ils assister à la gestation de leur plus grande tragédie? Voilà ce que Nicolas Hulot déclarait il y a peu dans le journal du dimanche, ajoutant « Nous sommes condamnés à un changement de matrice, c'est toute l'économie qui doit devenir sociale, solidaire et circulaire. » Un coup de gueule terrible auquel, hélas, l'on finirait presque par s'habituer. Des mots que l'on aurait pu trouver dans la bouche du pape François. Alors pour faire notre part, cette troisième émission ce matin de notre série spéciale Laudato Si, à l'occasion de l'année du même nom déclarée au printemps dernier par François, et qui court pour rappel jusqu'au 24 mai 2021. Le thème de cette troisième émission, l'homme au cœur de la création. L'appel de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, troisième du nom. On continue notre chemin en espérant qu'on ne crie pas dans le désert comme d'autres. Avec autour du plateau Jérôme Gué, vous êtes religieux jésuite. Vous avez été longtemps en charge de la transition écologique pour la Compagnie de Jésus en France. Sans la musique, ça sera mieux. Et auteur, vous êtes co-auteur du Parcours spirituel pour une conversion écologique paru aux éditions Vie chrétienne. Bonjour.
Bonjour.
Bénédicte Lamoureux, vous êtes religieuse Xavier, directrice des Côtes au Pays, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Bonjour.
Bonjour.
Et Yves Moidon, vous êtes jardinier paysagiste et donc engagé au sein de l'association Domino, qui est une association artistique et culturelle qui accueille des personnes en situation de fragilité psychique ou de handicap. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le témoin du jour. Allez, comme à chaque fois, j'ai fait simple, j'ai tapé dans un moteur de recherche dont je ne donnerai pas le nom, quoique si Ecosia, vous voyez, on fait des recherches, au bout de 45 recherches, on plante un arbre à l'autre bout de la planète, c'est beau. Recherche actualité, crise écologique, sur quoi on tombe? Nicolas Hulot, les 30 ans de la Fondation Nicolas Hulot, interview dans le JDD, avec ces mots, je vais les répéter, qui font mal. Comment être doté de capacités technologiques, intellectuelles, économiques sans précédent? Et peut-on assister à la gestation de cette grande tragédie? Il parle des hommes. Et je citerai deux autres passages avant de vous donner la parole, Jérôme Gué. Nous sommes condamnés donc à un changement de matrice et toute l'économie qui doit devenir sociale, solidaire et circulaire. La situation est radicale et nous y ferons face qu'avec des instruments tout autant radicaux. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jérôme Gué?
C'est intéressant d'entendre Nicolas nous dire ça. Je pense que dans notre société, on est tous avec des degrés de conscience différents quant à la crise écologique. Chacun en chemine, on avance. Je dirais, des gens comme Nicolas Hulot sont en avance. Et donc, c'est intéressant de les entendre. Effectivement, je pense que des gens comme lui ont vraiment une conscience forte de ce qui est en train de se jouer, du drame tel qu'il le dit. Il y a des chiffres, on les a entendus, on les connaît, mais on n'arrive pas à les intégrer. C'est-à-dire 80% de la masse des insectes ont disparu. C'est quand même des alertes
en Europe, c'est ça.
En Europe, c'est des études qui ont été faites en Allemagne et qui sont corroborées par rapport aux différents pays européens. Si on continue, même avec les engagements pris à l'accord de Paris, si on continue avec ces engagements, on arrive à 3 degrés de plus et ces engagements actuellement, on ne les tient pas. Donc, on va aller plus loin si on ne change pas radicalement la donne. Donc, on comprend que quelqu'un comme Nicolas Hulot est extrêmement inquiet. Et cette inquiétude-là, je dirais, il essaie de le communiquer, mais la question, c'est de recevoir cette inquiétude-là pour nous mettre en mouvement et non pas pour se paralyser face à ça, bien sûr.
Cette radicalité, elle peut faire peur parfois, Jérôme Gué. La situation est radicale, nous n'y ferons face qu'avec des instruments tout autant radicaux. On peut quelque part écarter un peu d'un revers de manche, en tout cas intellectuellement, en se disant « bon, c'est too much ».
En fait, ce qui fait un peu peur, c'est le pouvoir considérable qu'a acquis l'humanité. Ça, le pape François le souligne bien dans l'encyclique, on le verra dans les émissions suivantes. C'est ce pouvoir énorme qu'a acquis l'humanité, l'homme avec la technique et tout ça. Et en face, finalement, sa capacité de discernement éthique de la manière dont il va utiliser ce pouvoir est balbutiante et pas partagée. Et tout l'enjeu radical, c'est qu'on arrive, qu'on ait une capacité éthique de décision qui soit à la mesure du pouvoir que l'humanité a. Ça, c'est ça qui est c'est là où il faut qu'il y ait une radicalité éthique face à ça.
Yves Moidon, quand vous lisez comme ça, ou quand je vous lis ces passages de Nicolas Hulot, mais j'imagine que vous aussi vous le lisez parfois dans la presse, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous dites?
Je trouve que cette question est fondamentale aujourd'hui. Moi, dans les milieux plus de jardiniers, d'écologie que je fréquente depuis un certain nombre d'années, il y a des sonnettes d'alarme depuis 35-40 ans très fortes qu'on n'a pas pu écouter. Toute la question que j'ai aujourd'hui, c'est, dans mon métier, c'est la même chose, comment face à quelque chose que je sais mais dont je ne sens pas encore concrètement, intimement, les répercussions, comment je peux changer de vie ?
C'est-à-dire que vous, dans votre jardin, vous ne voyez pas de différence ?
Si, moi j'ai changé mes pratiques fondamentales et dans mon métier et dans mon jardin. Mais je me rends compte que souvent des clients m'appellent en disant « moi je veux un jardin bio ». Mais entre avoir l'idée d'un jardin écologique, etc. et se mettre à un changement profond et radical de rapport au temps, à l'espace et aux vivants qui m'entourent, ne plus prendre mon espace extérieur comme un objet de consommation, hein, je me paye un jardin, hein, la maladie de l'olivier devant la maison, etc. Je me paye l'éternité, je me paye une image qui va me rassurer. Mais jusqu'où, ça, c'est, j'ai acheté une image, je n'ai pas créé un jardin. Voilà. C'est ce changement-là est intime et compliqué à sentir.
On y reviendra. J'ai souvenir, en tout cas pour les insectes, je l'avais déjà cité, hein, ce « Et lentement tout bascule », c'est un livre donc de son prénom, pardon, vous allez m'aider, Lassus. Bref, c'est un livre qui vient de paraître et il prenait un exemple, c'est un jeune couple qui vit
Blandine
une transition.
Blandine et Arthur.
Voilà, Arthur de Lassus, qui prenait cette image aussi. Quand on traversait la France avant, on était obligé plusieurs fois de s'arrêter pour nettoyer le pare-brise, parce qu'il y avait des insectes collés sur le pare-brise. Aujourd'hui, vous pouvez traverser la France sans avoir presque de mouches collées sur votre pare-brise. Alors, on va parcourir ce troisième chapitre, le projet de Dieu sur l'homme au cœur de la création. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes émissions, c'est donc un parcours spirituel pour une conversion écologique que l'on parcourt aussi. C'est un livre donc que vous avez copublié, Jérôme Gay, avec un autre de vos frères jésuites, Éric Charmetan. C'est paru aux éditions Vie chrétienne Fidélité. C'est une retraite et nous, on transforme ça en émission. Alors, troisième jour de retraite, après avoir vu donc dans le chapitre 1 travailler à s'émerveiller de la nature, puis se recevoir comme toutes les créatures, on arrive à l'homme au cœur de la création. Il y a une lecture, on va dire presque un peu du livre de la Genèse, qui est mis en perspective de manière originale, et je commencerai par ça. L'être humain n'est pas le premier des créés, mais le dernier, si on lit bien le livre de la Genèse.
Ben oui, tout à fait. Moi, je m'en étais jamais aperçu, puis un jour, j'ai pris conscience de ça. C'est-à-dire que dans le récit de la Genèse, et c'est très clair dans le premier récit particulièrement, les différents éléments de la création sont créés par Dieu, et ce n'est qu'à la fin que Dieu finalement crée l'homme. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire il nous faut retrouver cette conscience que la nature, elle n'a pas attendu l'homme pour vivre, et que tous les éléments qui sont là, on en est dépendant. C'est-à-dire, on est complètement dépendant pour notre survie et pour notre vie tout court, de beaucoup de choses, de beaucoup de vie qu'il y a sur la planète.
Voilà, l'être humain est complètement dépendant de l'ensemble de la nature, de l'ensemble de l'écosystème. Il dépend de l'existence des animaux, des plantes, de l'air, de l'eau, du jour, de la nuit, du soleil, de la lune, etc. En citant évidemment la lumière, c'est ce qu'on peut trouver dans votre ouvrage. Alors, vous invitez, à l'occasion de ce jour, à regarder en fait la réalité d'une autre manière, en prenant le point de vue de la nature.
Oui, voilà. L'exercice ou le chemin qu'on a à faire, c'est d'arriver un peu à se décentrer. C'est-à-dire, on est dans une conception de la place de l'homme dans le monde qui est extrêmement centrée, l'homme au centre. Et on peut le comprendre sur certains aspects, mais on va beaucoup trop loin dans ce sens-là. Et donc, c'est tout un chemin intérieur, spirituel qu'on a à faire. C'est d'arriver à nous décentrer, à essayer de regarder la création autrement que simplement nous au centre. Voilà. Et donc, pour nous aider, je propose de se mettre à la place des autres éléments de la création. Alors, bien sûr, on ne va pas dire que les qu'une montagne, qu'un arbre pense comme un homme et nous regarde comme un homme peut regarder un arbre. Mais cet exercice-là, je pense, peut aider. C'est-à-dire
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment concrètement ça se passe dans un temps de retraite là? Vous prenez l'exemple de la montagne, vous dites qu'il faut penser comme une montagne.
Oui, alors ça, c'est parce qu'on a mis en référence un texte de Aldo Leopold dans Almanach d'un comté des sables, où il raconte comment il a fait cette expérience de, étant jeune, ayant la gâchette facile, de tuer des loups dans une montagne. Et en fait, à la fin, les loups ont disparu, les cerfs se sont multipliés et la montagne s'est dégradée parce que les cerfs ont abîmé la montagne, parce qu'ils étaient trop nombreux. Et du coup, ils prêtent à la montagne une sorte de pensée et une tristesse de voir la disparition des loups et de se voir affecté par cela. Voilà. Et donc...
Donc pendant la retraite, comment on pense à la place d'une montagne,
c'est... De regarder le monde non plus... à la place de l'homme qui voit les choses instinctivement comme étant utiles pour lui, et de regarder, mettons à la place d'une montagne, et de regarder ce qui est en train de se passer, voilà, et de voir l'homme là-dedans, et qui effectivement est en train d'endommager l'équilibre naturel, voilà. Mais ça aide à se décentrer, de regarder les choses comme ça.
La biosphère est pour l'être humain comme un vaisseau spatial, vous dites aussi dans votre ouvrage, ou un bateau dans lequel il vit et se déplace. C'est donc au sixième jour que Dieu crée les bêtes sur la terre, et enfin l'homme et la femme à qui il donne une place particulière. C'est un être malgré tout qui est créé et qui lui est à l'image de Dieu. Alors comment bien comprendre cette image de Dieu ?
Oui, alors le vaisseau spatial, l'image elle est très intéressante parce que si vous voulez... on imagine bien les gens qui sont dans un vaisseau spatial, l'oxygène pour eux c'est hyper important, le peu d'eau qu'ils ont c'est hyper important, et le vaisseau qui les protège est important. Et ben, il nous faut arriver à concevoir l'ensemble de la nature et de la planète de cette manière là tout ce qui est autour de nous est hyper important pour qu'on arrive à survivre. Voilà, c'est ça qui est en jeu. Voilà, donc l'image.
Alors, créer à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça signifie?
Créer à l'image de Dieu, ça signifie...
Ou quelle mission ça signifie vis-à-vis de la création?
Ben voilà, c'est-à-dire que Dieu crée l'ensemble de la nature et comme dans un acte gratuit d'amour pour la beauté du geste. Et donc, si on est à l'image de Dieu, on est dans ce même mouvement-là. Voilà. Et donc, par rapport à l'ensemble du créé, on ne va pas être dans une attitude de prédation uniquement utilitariste, mais on va se rapporter aux choses pour ce qu'elles sont et toute chose a sa valeur d'être en elle-même. Et Dieu regarde l'ensemble de la nature de cette manière-là. Et donc, si on est sans image, on est invité à le regarder de cette manière.
On est tous invités à être des jardiniers paysagistes. Hein. Cultiver le sol et le garder, c'est Genèse 2, 15.
Et si vous voulez, quand Dieu dit, on a beaucoup insisté sur...
Soyez féconds, prolifiques, voilà, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes bêtes qui remuent sur la terre, et dominez-la.
Voilà, dominez-la. Et donc ça, on a retenu ça. Mais on l'a retenu dans un sens utilitariste et de prédation. Parce que l'homme, il est un peu comme ça, voilà, sur certains aspects. Et justement, à la manière de Dieu, c'est pas du tout ça. La dominer, c'est être maître, mais c'est être maître dans l'amour, c'est être maître dans le service. Donc cultivez-la, gardez-la, c'est vraiment dans le sens, je suis au service aussi de cette création pour l'enrichir, pour... bien sûr, l'homme peut intervenir avec son génie, mais dans le respect et dans la continuation de l'œuvre de Dieu.
Alors, vous laissez entendre que c'est là, de fait, être profondément à l'image de Dieu. Il y a cette phrase, Jésus atteste de sa seigneurie et nous montre comment l'exercer. C'est-à-dire, en fait, ça serait là, quelque part, la seigneurie, on signifierait la seigneurie de Dieu et de Jésus en étant comme cela, des maîtres serviteurs, j'ai envie de dire.
Oui, alors je prends comme référence le moment du lavement des pieds où Jésus lave le pied de ses disciples et dit je suis maître et seigneur. Voilà. Et donc quand on dit dominez-la, dominus, c'est cette idée-là d'être maître et seigneur. Mais voilà, la manière de Jésus d'être maître et seigneur, c'est d'être au service, dans l'humilité.
Alors Yves Moidon, on a parlé tout à l'heure, il a parlé du temps. Ça a pu peut-être surprendre. Et vous, dans ce chapitre, vous vous arrêtez là-dessus. Alors, vous faites une distinction entre trois types de temps. Le temps de Dieu, le temps qui est celui, on va dire, de l'écoulement, celui de notre monde, si j'ai bien compris. Et puis, un autre temps qui serait le temps, comment dire, peut-être un temps divin d'une autre manière, le temps des moments favorables. Pourquoi ce développement sur le temps au cœur de ce chapitre, sur l'homme au cœur de la création?
Parce que, en fait... une conception, on est habité par une conception très très linéaire et immédiate du temps, voilà. Et
c'est-à-dire dans une seule des trois dimensions, c'est
oui,
ça?
Oui, et on a
la montre.
Oui, voilà, on a un rapport au temps extrêmement tendu et on essaye d'économiser tout ça. Et c'est ça qui provoque le pape parle de la rapidation, c'est-à-dire l'accélération. Bon. Et donc là. On est invité à se poser et aussi à réfléchir à son rapport au temps. Voilà. Alors, le troisième temps, c'est le moment favorable, c'est aujourd'hui, face à la situation qu'il y a, il y a une action à faire. Voilà. Il y a à bouger, il y a à nous convertir. Et ça, ce que vous disiez tout à l'heure de Nicolas Hulot, on tire la sonnette d'alarme en disant « c'est le moment ». C'est le moment de changer, sinon ça va aller très très mal pour nous. Voilà. Donc là, ça c'est le troisième temps. Le deuxième temps, c'est ce temps linéaire. Je nais un jour, je meurs un jour, la fleur fleurit, elle fane. Voilà. Et le premier temps, c'est le temps de l'éternité, c'est-à-dire Dieu qui est là pour toujours, nous sommes aussi promis à cette éternité.
Et qui est là aussi, c'est un temps entre guillemets qui fait partie de notre vie?
Ben oui, parce qu'on s'inscrit dans ce temps-là, on est inscrit dans cette vision d'éternité. C'est le temps des espèces, c'est-à-dire bien sûr la fleur elle va mourir, mais elle va provenir des graines qui va permettre à la plante de repousser et ensuite l'espèce se prolonge ainsi. Donc le temps de l'espèce, voilà.
Le pape dit le temps est supérieur à l'espace.
Oui, et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que c'est pas facile forcément à comprendre. On se dit qu'est-ce que l'espace et le temps.
J'appuie ce qu'il vient de dire Jérôme sur les espèces par exemple. Si ça se reproduit, si ça dure, si ça s'inscrit dans l'éternité, c'est que c'est supérieur à l'espace. Parce que l'espace, on le conçoit, nous, dans l'ici et le maintenant.
Voilà.
Or, il y a quelque chose, une lame de fond beaucoup plus importante qui vient de Dieu.
L'espace étant entendu justement comme, on va dire, l'ici et le maintenant. Donc le temps est supérieur à l'espace, vous en parlez aussi. C'est donc un des quatre grands principes de gouvernance du pape François. Et vous le rappelez, à ce moment-là, on va faire une première pause. Et puis Bénédicte va nous prendre un peu plus par la main, comme à chaque fois pour ses émissions, pour nous aider à intérioriser ce qu'on vient d'entendre. Je rappelle le titre de l'ouvrage, « Parcours spirituel pour une conversion écologique », c'est paru aux éditions Vie chrétienne et Fidélité.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'appel de Laudato Si, c'est pour rappel justement l'émission de ce matin, troisième émission d'une de nos séries annuelles. On essaie de faire notre part en cette année, donc Laudato Si, qui a été déclarée par le pape François le 24 mai 2020 et qui court jusqu'au 24 mai 2021 autour du plateau. Jérôme Gay, jésuite, et donc co-auteur d'un ouvrage que l'on parcourt, qui s'appelle justement « Parcours spirituel pour une conversion écologique ». Bénédicte Lamoureux, religieuse Xavier, directrice des Cotopaïs et centres jésuites dans le sud-ouest, et Yves Moidon, qui est jardinier paysagiste au sein de l'association Domino. Comme à chaque fois, Bénédicte Lamoureux, charge à vous de nous faire intérioriser ce qu'on a entendu avant. Alors si vous deviez reprendre peut-être, pour nous aider à nous remettre en mémoire, pour ceux qui par hasard prendraient l'émission, les trois, on va dire, les principaux thèmes qu'il faut avoir en tête avant de rentrer dans une démarche de plus silencieuse avec vous.
Eh bien, c'est...
Que faut-il retenir de ce qui a été dit ?
Ben, c'est l'homme dans la création, mais c'est l'homme qui se décentre peu à peu de lui-même et qui se resitue comme un parmi d'autres dans cette création. Que l'arbre, la fleur, les oiseaux, les poissons ont autant de valeur que lui. Et qu'on a toujours, comme disait tout à l'heure Jérôme, intériorisé l'idée que nous devions dominer cette création. Or aujourd'hui, il est temps, elle pourrait nous dominer tout à fait autrement. Et donc, à nous de... Voilà, c'est peut-être la grâce à demander spirituellement, c'est de trouver la juste place de l'homme dans cette création et d'en demander la grâce à Dieu.
Alors, rappelez, c'est l'occasion.
Une place ajustée.
On va dire, dans l'exercice ignatien que vous nous proposez, souvent, ça commence par une demande de grâce.
Oui,
c'est
une
ça,
demande de grâce.
Les étapes un peu...
L'esprit à l'œuvre, et que toutes mes pensées soient orientées uniquement vers Dieu pour faire sa volonté. Et demander une grâce précise selon la chose que je vais contempler ou méditer dans l'aujourd'hui. Et donc là, on peut prier, par exemple, avec ce troisième chapitre, puisqu'on est... Il y a un chapitre par séance à Vivante Église. Alors, on est dans le troisième chapitre. Et là, on pourrait prier avec la création, les textes de la Genèse, par exemple. Mais saint Ignace nous fait aussi prier avec, par exemple, le texte d'entrée, le porche d'entrée des exercices lui-même, un très beau texte qui s'appelle « Principes et fondements » et qui revisite notre rapport aux choses, à la création, à Dieu et aux autres. Et c'est un texte absolument fondamental. Je peux vous en lire, par exemple, la première phrase et commenter un tout petit peu.
En tout cas, il figure en préambule du parcours des exercices spirituels.
Tout à fait. Et c'est vraiment un fondement. Il l'appelle d'ailleurs comme ça, principe et fondement. C'est un principe parce que c'est comme un postulat de base en mathématiques, on pourrait dire. Mais c'est quelque chose d'assez fondamental. Sans cet positionnement, disons, d'intention droite, eh bien, je peux fausser complètement mon rapport à la création, à moi-même, aux autres. Alors Ignace dit ceci, « L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. » Alors ça peut paraître un peu complexe, on va essayer de le décortiquer. « L'homme est créé. » Déjà c'est intéressant, Ignace il est au 15e siècle, hein, il n'écrit pas « a été créé ». Donc c'est intéressant de voir qu'il est au présent, ce verbe. Donc c'est encore aujourd'hui, je suis créé. Est-ce que je réalise ça ? Enfin, voilà.
Vous voulez dire que je pourrais me lever un matin et que je ne sois plus créé, c'est ça ?
Ben, c'est-à-dire que je peux me positionner comme quelqu'un qui décrée, qui me décrée, qui décrée les autres par un regard, par une parole, par un geste qui est décréateur. Ouais. On voit bien. Hein, aujourd'hui, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de...
D'exemple
à donner. Hein. Et donc, on le voit. Alors, ça reprend plein de choses de la Bible, cette création de l'homme. Il y a plein de textes.
Alors, créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur.
Oui.
Et par là, sauver son âme.
Voilà. Et aussi, respecter Dieu, le sauver. Dieu, mais aussi les autres, du coup. Voilà. Alors, louer. Et réaliser qu'on est créé, c'est réaliser qu'on est un don de Dieu. Et donc, se recevoir soi-même, nous ne sommes pas donnés à nous-mêmes l'existence. Nous avons reçu notre existence. Donc c'est déjà se positionner comme recevant la vie nous-mêmes. On n'a aucun pouvoir sur rien, en fait, si on regarde bien, si on réfléchit un peu sérieusement. Je n'ai de pouvoir que sur moi-même. Je peux changer les choses de moi-même, mais autour de moi et sur les choses, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, en tout cas sur les autres. Voilà,
c'est un peu vite dit, si je peux me permettre quand même, non, c'est... L'histoire peut parfois prouver le contraire.
Bah, on a une liberté à exercer, mais en soi, je reçois la vie. Et sur cette vie-là que j'ai reçue, je n'ai pas de pouvoir que d'essayer de la développer.
D'accord, ni sur
celle des. Mais je n'ai pas le pouvoir de changer l'autre, mais je peux changer mes actes. Enfin, voilà, c'est une petite nuance, effectivement. Et donc, quand il dit louer, respecter et servir... Bah, si on regarde la louange, c'est vraiment dire du bien de l'autre. C'est le regarder avec bienveillance. Donc l'autre, bah, c'est aussi la nature, la création, tout ce qui m'entoure. Donc regarder, chanter que tes œuvres sont belles, pouvoir me réjouir de cette vie. On l'a longuement fait les deux premières séances sur toute la création et la nature.
Alors tout à l'heure, Jérôme Gué nous invitait à penser comme la montagne, c'est-à-dire que la montagne aussi, elle a une forme de louange quelque part ?
Oui, bien sûr, puisqu'elle est à contempler. Elle est à recevoir comme quelque chose de bon et de beau.
Alors, donc, l'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Là, on se dit, oula, mais c'est justement une vision assez utilitariste.
Bah, dans la mesure où je le respecte, non. Ça peut, effectivement, tout est dans la façon dont je vais me mettre à regarder et à respecter tous les éléments autour de moi. Donc les éléments de la nature, les éléments, c'est aussi les autres, et c'est aussi moi-même.
Oui, et ça dépend aussi de la fin. C'est-à-dire, si la fin est très profondément respectueuse et d'émerveillement et de vie dans le respect des autres, eh bien, dans ce cas-là, quand je dis que les autres choses sont faites pour m'aider à aller à cette fin, ces choses-là, si je vais me rapporter aux choses aussi avec ce respect et cet émerveillement.
Et puis j'ai le souvenir aussi dans Laudato Si d'un passage, là je ne le retrouve pas, qui laisse entendre que Dieu a voulu aussi pour elle-même le monde, enfin pour lui-même, le monde végétal, le monde animal, il a quelque part une finalité en dehors de l'homme. Ça vaut le coup peut-être de le rappeler, ça,
Benoît Amoureux. Tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce que le pape François veut dire par là? Parce que c'est un peu difficile parfois à comprendre. On va dire chacun a une existence propre indépendamment de l'homme quelque part.
Ben, chacun a son unicité et c'est ça la création selon Dieu, c'est qu'on est tous uniques. Et ça, c'est une beauté incroyable. Et dans la foi chrétienne, on peut dire que même après la mort, je garderai cette unicité. Je garderai ce que je suis au plus intime de moi, au-delà de mon corps. J'ai une identité propre, aimée de Dieu. Et ça, c'est vraiment le chemin que nous fait faire Ignace, c'est de recevoir ça. Et de me respecter, et du coup de respecter les autres dans ce même regard, les autres et les choses dans ce même regard.
Alors je retrouve, c'est dans le paragraphe 69 de Laudato aussi, les autres êtres ont une valeur propre devant Dieu et par leur simple existence, ils bénissent et lui rendent gloire, puisque le Seigneur se réjouit en ses œuvres. Et là, il cite le psaume 104. Alors Bénédicte l'amoureux, ce parvis des exercices spirituels, qui est donc ce texte, principe et fondement, semble-t-il, Ignace invite à faire un exercice important et lui aussi radical, pour reprendre les propos donc de Nicolas Hulot, c'est d'inviter à rentrer dans une totale liberté par rapport aux choses. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, Ignace utilise le terme « indifférence ». Alors, on voit bien ce que c'est que l'indifférence, on pourrait dire « je m'en fous », mais ce n'est pas du tout ça. Cette indifférence-là, elle est effectivement du côté de la liberté. Et c'est revisiter mon rapport aux choses et aux personnes, les choses et les personnes qui m'entourent, pour voir comment je me situe. Est-ce que je manipule ? Est-ce que je tire à moi les choses ? Est-ce que je suis au centre de tout ? Ou est-ce que ces choses sont pour moi simplement des moyens d'aller vers la fin pour laquelle je suis créée ? Et du coup, de me respecter, de respecter cette création qui m'entoure, de respecter le Seigneur qui m'a créé, le donateur de toutes ces choses et toutes ces personnes. Voilà. Et donc, du coup...
Donc, la totale liberté, c'est quoi ? C'est une forme d'inversion du regard, toujours, c'est ça ?
Oui, c'est conversion du regard. Pour que chaque chose soit à sa place et qu'il n'y ait pas d'exagération. Je vous donne un tout petit exemple. Le vin est bon. Mais si j'en bois trop, à un moment donné, ça va déraper pour moi. Et d'autres choses
donc sur la phase. Le bon rapport au vin, c'est d'avoir dans le fond une liberté totale à l'égard du vin, c'est ça ?
Une liberté qui fait que je peux en boire, mais sans excès. Et donc, il en va de même pour les personnes, pour la nature, pour... voilà, on voit bien que quand on a été trop excessif dans la manière de traiter, je sais pas, des vignes ou du blé, on a pu dégrader l'ensemble de l'écosystème.
Alors, vous vouliez après prendre le psaume 91, qui lui parle davantage donc du temps de Dieu, et vous vouliez vous arrêter, entre autres, je crois, sur le début, hein, versets 2 à 6. Pourquoi le choix de ce psaume ?
Alors, le choix de ce psaume 91, c'est justement, il aide au repositionnement de l'homme dans la création. Vous avez, et on en a parlé tout à l'heure avec Jérôme, le temps de Dieu au début, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. Voilà, on peut se laisser aller, là, à vraiment un temps de contemplation, de louange, de bénédiction. Voilà, dire du bien de l'autre, mais dire du bien des choses et des éléments qui m'entourent. Et se laisser dilater et convertir le regard par la beauté de ce que je vois autour de moi. Et puis, on revient dans la deuxième partie au temps linéaire dont nous faisions allusion tout à l'heure.
On peut en lire qu'une partie peut-être, mais
voilà. Ça commence comme ça. Et
donc,
je dirais
le début, c'était donc le temps
l'homme,
de Dieu.
Voilà, maintenant on est dans le temps linéaire. Et ben c'est l'homme borné. L'homme que nous sommes, qui s'est trompé dans le rapport à la nature. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent comme ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Et donc le temps linéaire peut nous introduire dans une forme de décréation. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes plus dans la liberté d'accueillir la beauté de cette création autour de nous et de la préserver et de nous préserver par la même occasion.
Vois tes ennemis, Seigneur, c'est un peu plus loin. Vois tes ennemis qui périssent et la déroute de ceux qui font le mal. C'est vrai qu'on ne lirait pas forcément ça à propos des questions écologiques, mais aujourd'hui peut-être davantage. Et puis la dernière partie, c'est le temps de l'homme ajusté à Dieu, donc
tout
le fameux kairos.
Et là, on sent toute la sagesse qu'il s'agit d'acquérir pour nous, en se plaçant de façon juste autour de nous. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « le Seigneur est droit ». Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Donc se replacer aussi devant Dieu qui est mon rocher, celui par lequel je peux vivre tous ces exercices de réajustement, de réordonnation, j'allais dire, de réordonner mon rapport aux choses, les choses que j'utilise trop ou trop mal, les choses qui me dégradent et les choses qui dégradent mon environnement et qui dégradent ma relation aux autres. Parce qu'on parle dans l'encyclique de l'écologie intégrale. Et donc, toutes ces choses-là sont prises dans ce principe et fondement d'Ignace.
Jérôme Gay, en fait, le kairos, si je comprends bien, c'est un peu la rencontre du temps de Dieu. Donc là, c'est, on appelait ça aion, je crois, le terme. Et puis, du temps linéaire de l'homme. En fait, c'est quoi ? C'est comme si les deux réalités, par moment, étaient ajustées. C'est ça, comme ça qu'il faut le comprendre ?
Oui, on peut le dire comme ça. C'est surtout, aujourd'hui, il y a... une décision à prendre. Aujourd'hui, il y a une action à poser. Aujourd'hui, il y a un appel de Dieu et il faut y aller. Voilà. Donc
ça peut être les petits appels du quotidien, comme les grands changements de vie ou de civilisation, comme on lisait au début de Nicolas Hulot.
Et pour l'humanité, on est vraiment dans ce temps-là. Là. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui qu'il faut bouger.
J'ajouterais qu'il y a une notion d'urgence. Derrière ce côté temps, on parle de kairos en termes théologiques, mais derrière se cache la notion d'urgence. Il est urgent, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Il est urgent de changer. Enfin, il y a une prise de conscience qu'il faut vraiment passer à l'acte, quoi.
Voilà, sans délai, je crois que c'est une expression qui revient souvent dans la bouche du pape François et dans l'encyclique Laudato Si. On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver notre témoin du jour, jardinier paysagiste, dans la droite ligne donc de la création, puisque on l'a lu donc dans le livre de la Genèse. Il est indiqué « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes bêtes qui remuent sur la terre, mais aussi cultivez le sol et le gardez. »
Radio Présence à Moissac, 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'appel de Laudato Si, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On suit ce parcours spirituel pour une conversion écologique, cet ouvrage qui propose donc une retraite et que l'on essaie de vivre au long de cette année Laudato Si qui court donc jusqu'au 24 mai prochain. Avec nous, Jérôme Gué, religieux jésuite Bénédicte Lamoureux, directrice des Coteaux Païs et Centre Jésuite dans le Sud-Ouest, et Yves Moidon, jardinier paysagiste au sein de l'association Domino. Yves Moidon, vous êtes donc le jardinier paysagiste et ça tombe bien aujourd'hui. À croire qu'on l'a fait exprès. Est-on tous appelés à devenir des jardiniers paysagistes d'une certaine manière, Yves Moidon ?
On est tous appelés à avoir une relation avec le monde qui nous entoure. Autre chose est de rentrer dans l'art des jardins. C'est un art, ça fait 30 ans que j'y suis et j'en suis au tout début. Mais nous sommes tous appelés à vivre en relation avec le vivant qui nous entoure, le vivant qui sont les êtres qui sont avec nous, mais à vivre avec, dans un écosystème. Nous sommes tous insérés dans un écosystème. Hein. Qu'on soit en ville, dans un appartement, c'est un écosystème où il y a des mouches, des moustiques, etc. Ou j'ai la chance de vivre à la campagne sur un grand domaine. Le vivant est plus large. Voilà.
Vous dites aussi qu'en fait, dans le fond, on est tous appelés à rentrer dans une forme de gratuité et de contemplation.
Oui, je pense que souvent, on est... La question qui est posée avec la Laudato aussi, avec l'écologie, mais on pourrait prendre avec le COVID, la Covid pareil, c'est la question de la peur. Et on dit souvent la peur est mauvaise conseillère. Et aujourd'hui, je ne connais qu'un seul moyen vraiment de s'en sortir, c'est de regarder, prendre le temps de regarder ce qui nous entoure, de l'émerveillement. Si l'écologie n'est pas basée sur un émerveillement, donc un rapport au vivant, à l'autre, à l'altérité, hein, c'est de ce décentrage dont parlait Jérôme tout à l'heure, à travers comment j'apprends à regarder, à écouter comme la montagne.
Mais pourquoi c'est un antidote à la peur ?
Parce que ça me fait passer, je veux dire, du moi au je. Hein, ça me fait passer de mes réactions, de mon épiderme, de sensations qui vont m'amener à une fébrilité, hein, ou à un intellectualisme forcené qui va amener à avoir une des conséquences si cette écologie n'est basée que sur la peur du demain, on va arriver à une autre tyrannie écologique. Comme on a une tyrannie actuelle qui est l'individualisme matérialiste.
Vous dire que la réaction naturelle, ce serait à nouveau d'essayer de prendre pouvoir sur la réalité, mais d'une autre manière.
Oui, un écosystème, pour le connaître, hein, souvent, je vis avec des agriculteurs autour de moi qui ont peur de leur environnement. On va tailler, couper, broyer, maîtriser tout notre rapport à la nature, en ville, le nombre d'arbres auxquels on coupe des têtes par peur, alors que l'arbre, un arbre surtout des résineux sans tête, n'ont plus de sens. Hein, mais on a toujours une peur de la nature, et on l'oublie de l'environnement dans lequel on vit. Par contre, comment on rentre, hein, soit je me situe dans un mythe de la nature et de moi et de l'homme, soit je suis intégré complètement dans un écosystème, et là, le rapport à la vie change.
Alors vous dites aussi qu'il y a deux façons, donc même d'exercer votre métier, jardinier paysagiste. Alors il faut rappeler aussi que vous l'exercez donc en dehors de l'association Domino probablement, mais au sein de l'association Domino de manière particulière, puisque cette association donc artistique et culturelle accueille des personnes en situation de fragilité psychique ou de handicap, bref des gens qui viennent souvent à la journée et qui travaillent avec vous au jardin. Vous dites qu'il y a deux façons de faire, donc vous et d'autres. Vous faites une distinction entre la praxis et la poésis. Alors expliquez-nous.
Alors ça, c'est un petit texte de Michel Serres, je crois que j'avais lu un jour, qui dit « il y a deux façons de traduire ». Alors je ne suis pas helléniste, hein, j'ai pris ça. Deux façons de traduire le terme « faire » en grec, qui est, l'un c'est la praxis, c'est je prends et je mets en œuvre. L'autre c'est la poésis, c'est il est venu faire un travail en moi, un travail intérieur, qui fait que je pose un acte en réponse pareil. Donc ce sont deux actes, mais il y en a un qui est un acte préfabriqué, un acte où je ne me suis pas impliqué comme créateur, je me suis comme exécutant.
Prenez un exemple, peut-être, dans votre jardin.
Dans mon jardin...
Quand est-ce que vous êtes praxis ou poésis, alors?
Alors, moi, j'essaye de toujours être poésis, hein, même en passant la tondeuse, parce que je pense que même la tonte est un acte de création. C'est parce que je passe. Hein, c'est comme le ménage dans une maison. On passe... Le ménage sert aussi à créer l'espace. Nous avons à créer nos espaces et notre temps. Par un certain nombre d'actes.
C'est pas seulement parce que vous utilisez l'air pour faire autre chose.
Non, c'est parce que au fur et à mesure, je connais chaque centimètre carré. En passant, ben il y a une orchidée, je passe à côté pour permettre à l'orchidée de fleurir. À tel endroit, je vais et ça va dessiner l'espace. Hein, le parc où l'on a, toute l'année, je ne tonds que les allées et on fauche les prairies, les espaces. Hein, c'est un entretien à l'anglaise un peu. Et ça crée en permanence des espaces, des perspectives de la vie. Et on s'émerveille des orchidées qui sont dans la pelouse, de toute une foultitude d'insectes, etc., qui permettent ensuite de changer notre rapport à l'acte.
Est-ce que les personnes fragiles que vous accueillez, donc en situation de fragilité, elles rentrent peut-être plus facilement dans cette poésie?
Je ne sais pas si elles rentrent plus facilement. En tous les cas, souvent, elles ont un accès. Comme elles ont une... on est dans un monde où le cerveau gauche a pris la tyrannie. Hein, on a tout bien maîtrisé de nos vies. Hein, tout est...
Le cerveau gauche, c'est donc le cerveau raisonnable.
La raison, là. Ce sont des gens qui, souvent, comme la question de la mise en perspective de leur vie est difficile, ils ont un accès à... justement à quelque chose de plus fin, de plus ralenti souvent. Donc c'est souvent des démarches, pas tous, hein, mais c'est souvent des démarches dans lesquelles ils rentrent plus facilement, oui.
Parce qu'ils ont une plus grande attention, on va dire, à la réalité, parce qu'ils en ont besoin
Non, c'est parce que je pense que leur temps est plus lent. Nous vivons dans un temps qui est un temps du vouloir. Donc c'est un temps qui est en permanence dans la sujet. On assujettit notre temps. Voire on nous assujettit dans notre temps. C'est-à-dire, on nous impose un temps chronos, hein, un temps qui ne nous permet plus la question de, justement, de prendre le temps de la relation à l'autre, et à l'autre aussi, qui est l'insecte. Hein, j'emmène des jeunes, des fois, dans la nature, et je suis très surpris que les premiers amis, les premières choses qu'ils voient, c'est la petite plante, c'est le trèfle, c'est les colonies de fourmis, c'est vraiment l'infime. Et parce que je prends le temps de cet infime, avec le temps, je peux prendre le temps du grand.
Donc on ne peut pas rentrer dans un juste rapport à la nature, à vous entendre, donc, et à entrer dans cette forme de faire qui soit plus poétique, sans en fait commencer par un autre rapport au temps. En fait. C'est ça
qu'il
faut entendre.
Je pense qu'il est, alors ça se fait, c'est pas que je veux faire
Ça se fait pas toujours.
Ça se fait pas toujours. Je pense que beaucoup de gens, quand ils vont marcher le week-end dans les Pyrénées, à la montagne, goûtent naturellement à ce temps. Hein, pour beaucoup, c'est leur temps ils retouchent à un temps intime qui correspond à un temps, ce que j'appelle moi extime, c'est-à-dire le temps de l'autre. Et comment ces temps se mettent en corrélation, hein. Comment ça se joue, c'est un jeu. Hein,
c'est vrai que le temps de la montagne, c'est relativement apaisant, parce qu'elle a le temps.
Elle a le temps, et parce qu'elle me force à ralentir, à ajuster mon temps au sien, au rythme de la nature. Et du coup, j'accueille des temps qui ne sont pas les miens, le temps de la rivière, le temps de la montagne, etc. Dans le jardin, je vois, ben, y a le temps de... Nous, on travaille beaucoup donc, avec des mulches, avec des paillages et autres. L'hiver, c'est le temps du ver de terre et du champignon. Comment on apprend à regarder...
Vous parlez aussi du temps du patrimoine. C'est quoi le temps du patrimoine?
Alors, le temps du patrimoine, ça va être dans les trois temps. Moi, je mettais d'autres. Le premier, pour moi, c'est le temps de la vision en tant que créateur, en tant que.
Donc, ça, c'est le temps de Dieu.
Non, le temps de la vision, c'est le temps où, de l'aspiration. Le second, pour moi, c'est le temps du vivant, le temps de la mise en œuvre. Et le troisième temps, c'est le temps de l'accomplissement. Pour moi, c'est là où on rentre dans le temps de Dieu. Ce n'est plus un temps qui m'appartient, mais c'est un temps que je reçois.
Et le temps du patrimoine là-dedans, c'est quoi là ?
C'est le dernier. C'est-à-dire, quand je plante un arbre, en général, c'est pour 250 ans, 300 ans, 400 ans. Donc, je sais que l'acte que je pose, c'est bien dans une vision, c'est bien moi qui vais planter le petit chêne de 20 cm, mais n'empêche que le temps de l'accomplissement, il ne m'appartient pas. Voilà. Et comment vivons-nous dans un temps qui ne nous appartient pas ? Hein, aujourd'hui, souvent, je prends l'olivier parce que c'est
l'exemple que vous prenez l'exemple, au début, mais c'est très bien fini.
Parce que il y a toujours une plante qui est symptomatique de ce que nous aimerions vivre et que nous, comme nous n'avons pas le temps de le vivre, on se l'achète. Il y a eu le prunus, il y a eu le cèdre, il y a eu un certain nombre de plantes en un siècle et demi là qu'on a vu fleurir devant les maisons. Aujourd'hui, c'est l'olivier. Et l'olivier, nous avons une angoisse du temps, nous prenons l'arbre du temps. Hein, l'olivier, c'est 2500, 3000 ans. Et nous, comme nous avons cette angoisse, nous prenons cet objet transitionnel pour nous accrocher.
Yves Moidon, il vous a fallu justement du temps et passer beaucoup de temps dans la création pour petit à petit justement changer un peu, on entend, hein, un rapport au temps qui est différent, un rapport à la création. On a l'impression que justement ça prend beaucoup de temps. Au début, on entend Nicolas Hulot qui nous dit c'est maintenant, c'est vite, c'est radicalement. On peut sortir de là en se disant là, il y a une injonction contradictoire. Là, c'est...
Non, je pense qu'il y a des précurseurs. Moi, je suis héritier de ces précurseurs. Je vois bien que il n'y a pas eu de rupture dans ma vie entre mes grands-parents, etc., de ce monde de rapport à la Terre. Réapprendre tout le rapport à la Terre est un long chemin. Par contre, passer dans des questions de permaculture et autres, c'est un chemin qui va très vite. Hein, moi, je vois des gens, j'ai une personne en 6 mois, 8 mois, ça y est, il a basculé, il a retrouvé en lui, par des actes simples d'agriculture, hein, il a pu regoûter à cette question qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai que sa vie a changé, il est en train de partir à la campagne, mais les actes se posent. Hein. Ça ne demande pas non plus trop de temps. C'est surtout trouver le bon rapport.
Et bah, tous jardiniers paysagistes, j'ai envie de dire. Tous cultivons le sol et gardons-le, c'est Genèse 2,15. Merci beaucoup Yves Moidon et merci à vous d'avoir donc éclairé cet appel de Laudato Si à travers le troisième chapitre de ce parcours spirituel pour une conversion écologique paru aux éditions Vie chrétienne et Fidélité. Un grand merci à vous et rendez-vous donc le mois prochain. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.